Les modernes. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce qui était devenu vieux est passé. Voyez, tout est devenu nouveau. Nous avons dit plus haut que pour les anciens, le monde était une vérité. Nous pouvons dire maintenant, pour les modernes, l'esprit était une vérité, mais à condition d'ajouter, comme précédemment, une vérité derrière la fausseté de laquelle ils cherchèrent et finalement parvinrent à pénétrer. Le christianisme suit la route qu'avait prise l'Antiquité. Courbé durant tout le Moyen Âge sous la discipline de dogmes chrétiens, l'intelligence se fait sophiste pendant le siècle qui précède la Réforme et joue un jeu hérétique avec tous les fondements de la foi. Cela se produit surtout en Italie et particulièrement à la cour de Rome. Mais quel mal y a-t-il à ce que l'esprit se divertisse, pourvu que le cœur reste chrétien? Longtemps avant la Réforme, on était si bien accoutumé aux subtiles controverses que le pape, et presque tous avec lui, ne crurent d'abord assister, lorsque Luther entra en scène, qu'à une simple querelle de moines. L'humanisme répond à la sophistique. C'est au temps des sophistes que la vie grecque atteignit son plein épanouissement, siècle de Périclès. De même, l'époque de l'humanisme, que l'on pourrait peut-être appeler aussi l'époque du machiavélisme, fut un apogée dans l'histoire de la civilisation. Découverte de l'imprimerie, du Nouveau Monde, etc. Le cœur était à ce moment bien éloigné encore de toute velléité de se débarrasser de son contenu chrétien. Mais la Réforme prit enfin, comme l'avait fait Socrate, le cœur au sérieux, et les cœurs, à dater de ce jour, ont, à vue d'œil, cessé d'être chrétiens. Du moment qu'on commençait avec Luther à remettre le cœur en question, ce premier pas dans la voie de la Réforme devait aboutir à ce que lui aussi s'allégea du fardeau écrasant des sentiments chrétiens. De jour en jour, moins chrétien, le cœur perdit ce qui l'avait rempli et occupé jusque-là, si bien qu'il ne lui resta plus enfin qu'une cordialité vide, l'amour tout général de l'homme, de l'humanité, le sentiment de la liberté, la conscience. Le christianisme atteint ainsi le terme de son évolution parce qu'il s'est dénudé, atrophié et vidé. Le cœur n'a plus rien en lui qui ne le révolte, à moins de surprise ou d'inconscience. Il soumet à une critique mortelle tout ce qui prétend l'émouvoir. Il n'a ni ménagement ni pitié. Il n'est capable ni d'amitié ni d'amour. Et que pourrait-il aimer chez les hommes ? Tous sont des égoïstes. Nul n'est vraiment l'homme, le pur esprit. Le chrétien n'aime que l'esprit, mais où est-il le pur esprit? Aimer l'homme corporel en chair et en os ne serait plus un amour spirituel. Ce serait une trahison envers l'amour pur, l'intérêt théorique. Ne confondez pas, en effet, avec l'amour pur cette cordialité qui serre amicalement la main à chacun. Il en est précisément le contraire. Il ne se livre en toute sincérité à personne. Il n'est qu'une sympathie toute théorique, un intérêt qui s'attache à l'homme en tant qu'homme et non en tant que personne. La personne repousse cet amour parce qu'elle est égoïste, qu'elle n'est pas l'homme, l'idée à laquelle seul peut s'attacher l'intérêt théorique. Les hommes comme vous et moi ne fournissent à l'amour pur, à la pure théorie, qu'un sujet de critique, de raillerie et de radical mépris. Ils ne sont pour lui, comme pour les prêtres fanatiques, que de l'ordure et pire encore. Arrivés à ce premier sommet de l'amour désintéressé, nous devons nous apercevoir que cet esprit auquel s'adresse l'amour exclusif du chrétien n'est rien ou est un leurre. Ce qui, dans ce résumé, pourrait encore paraître obscur et n'être pas compris, s'éclaircira, nous l'espérons, par la suite. Acceptons l'héritage que nous ont légué les anciens et tâchons, ouvriers laborieux, d'en tirer tout ce qu'on en peut tirer. La terre gît méprisée à nos pieds, loin en dessous de nous et de notre ciel. Ses bras puissants ne nous étreignent plus, nous avons oublié son souffle enivrant. si séduisante qu'elle soit, elle ne peut égarer que nos sens, notre esprit, et nous ne sommes en vérité rien qu'esprit. Elle ne saurait le tromper. Une fois parvenu derrière les choses, l'esprit est aussi au-dessus d'elles. Il est délivré de leurs liens et plane, affranchi, librement dans l'au-delà. Ainsi parle la liberté spirituelle. Pour l'esprit, que de longs efforts ont dégagé et affranchi du monde. Il ne reste plus le monde et la matière déchus que l'esprit et le spirituel. Toutefois, en devenant essentiellement différent et indépendant du monde, l'esprit n'a fait que s'en éloigner sans pouvoir en réalité l'anéantir. Aussi ce monde lui oppose-t-il, du fond du discrédit où il est tombé, des obstacles sans cesse renaissants. Et l'esprit est-il condamné à traîner perpétuellement le mélancolique désir de spiritualiser le monde, de le racheter? De là, les plans de rédemption, les projets d'amélioration du monde qu'il bâtit comme un jeune homme. Les anciens, nous l'avons vu, étaient esclaves du naturel, du terrestre. Ils s'inclinaient devant l'ordre naturel des choses, mais en se demandant sans cesse s'il n'existait pas de moyen d'esquiver cette servitude. Lorsqu'ils se furent mortellement fatigués à des tentatives de révolte, toujours renouvelées, de leur dernier soupir naquit le Dieu, le vainqueur du monde. Toute l'activité de leur pensée avait été dirigée vers la connaissance du monde. Elle n'avait été qu'un long effort pour le pénétrer et le dépasser. Quel but s'est donné la pensée pendant les siècles qui suivirent? Derrière quoi les modernes ont-ils tenté de pénétrer? Derrière le monde? Non, car cette tâche, les anciens l'avaient accomplie. Mais derrière le Dieu que ces derniers leur léguaient, derrière le Dieu qui est esprit, derrière tout ce qui tient à l'esprit, derrière le spirituel. L'activité de l'esprit qui explore les profondeurs même de la divinité aboutit à la théologie. Si les anciens n'ont produit qu'une cosmologie, les modernes n'ont jamais dépassé et ne dépassent pas la théologie. Nous verrons par la suite que les plus récentes révoltes contre Dieu ne sont elles-mêmes que les dernières convulsions de cette théologie. Ce sont des insurrections théologiques.